Mardi 17 janvier, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de cette émission, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Jacques Gignac, d'ailleurs, que je tiens à remercier pour ce nouveau thème d'émission. On innove en 2012, on met un nouveau thème, une nouvelle ambiance, une nouvelle entrée en matière. Alors voilà, c'est le nouveau thème qu'on inaugure aujourd'hui avec grand plaisir. C'est d'ailleurs aussi avec grand plaisir que j'anime cette première émission de l'année. Comme celle de l'année précédente, elle sera tout aussi rythmée. Aujourd'hui, on discute avec Louis Lacerte, puisque quand même, la galerie Lacerte Art Contemporain fête cette année son 30e anniversaire, donc 30 ans de présence dans le monde de l'art contemporain à Québec. Donc, il sera avec nous pour en parler en deuxième partie d'émission. Également, Catherine Boivin viendra nous parler de l'exposition de David Faithfull, l'artiste écossais qui nous présente Palindrome Panoramique, qui est présentée à Engram. On discute aussi un petit peu plus tard, environ une quinzaine de minutes, avec Georgia Volpe, qui nous présente l'exposition Méandre à vue. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va très bien. De retour pour poursuivre à l'aérospatiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parlera de quelques programmations qui ont été lancées, Moi Multi, Musée national des beaux-arts du Québec.
Et en attendant, eh bien, comme à l'habitude, on discute avec Simon Roy. Dans quelques instants, il va nous présenter sa sélection en art audio pour cette semaine. D'ailleurs, dans le temps des fêtes, là, on se parlait un peu sur le site Facebook de l'aérospatiale et on se disait qu'on avait hâte justement que ça recommence. Simon, bonjour.
Ça va bien.
Ça va bien, toi?
Oui.
Oui, donc tu me disais que tu avais bien hâte de nous présenter ta sélection cette semaine.
Ben oui, j'ai trouvé le congé des fêtes un peu long. J'avais hâte de présenter ma sélection musicale aux auditeurs. Donc, bien content d'être de retour.
Et qu'est-ce que c'est?
C'est un album, encore une fois, avec des noms de pièces un peu étranges. C'est des noms de couleurs, mais avec en notation exacte. Décimale. Donc, on avait déjà fait ça, un album, c'était au mois d'octobre, c'était Ten Connect, puis Mixo Live, qui avait un genre d'album comme ça. Cette fois-ci, c'est un français du nom de Philippe Nord, il évolue sous le nom de NP. C'est donc un français de la ville de Lyon, en France, un artiste de 30 ans, un album vraiment intéressant. C'est assez sombre. On dirait que c'est composé par une intelligence artificielle, donc musique électronique, un peu glitch, donc des ambiances vraiment inquiétantes par bout. Puis donc c'est ça, c'est un album qui mérite d'être écouté vraiment en profondeur. On va seulement entendre quelques extraits, mais j'invite les auditeurs à télécharger l'album. Ça vaut vraiment la peine pour les amateurs d'art audio. C'est un album vraiment intéressant.
Puis le lien aussi va être sur le site l'aérospatiale.wordpress.com en cours de soirée ou de journée demain.
C'est ça exactement. C'est publié sur l'étiquette Petcord, une étiquette allemande qui a plus de 50 albums. Puis c'est managé seulement par une personne, donc Oliver Wickman, qui fait un gros travail avec l'étiquette musique souvent expérimentale. Donc ça aussi, il faut aller visiter, ça vaut la peine. Donc c'est ça, l'album s'appelle Couleur ASCII. C'est par Philippe Nord. On va entendre la première pièce. Je ne donnerai pas le choix. C'est la couleur vert. Ensuite de ça, c'est le rouge. On va passer au blanc. Et on finit avec la dernière pièce, le jaune.
Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
On t'écoute dimanche à compter de 20h. C'est le journée de CKRL.
Oui. Thank you.
Le premier extrait de l'album Couleur ASCII, c'est de NP, une suggestion de Simon Roy, je le disais tout à l'heure, je le redis, vous pouvez trouver tous les liens sur Internet, également les liens que de la revue de presse Karine Montpoiré s'apprête à nous faire sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, si vous voulez, vous pouvez toujours aller sur Facebook, on a une belle présence, vous aurez juste à aimer et suivre nos actualités. Alors vraiment, on se lance sans plus attendre dans la première revue de presse de l'année.
Et il faut dire, avec le début de l'année, plusieurs annonces également, plusieurs programmations qui allaient être présentées, notamment un événement qui s'en vient, en fait, et là c'est une question de jours presque, en fait, du 1er au 29 février, le mois multi-édition 2012, dont la programmation a été lancée. Et comme à chaque année, c'est toujours très vaste, très riche comme événement, on parle ici de plus de 50 artistes du Québec, du Canada, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis qui sont attendus pour faire vivre aux spectateurs, spectatrices de Québec, des expériences inédites. On parle de très bien habitués de spectacles, de performances multidisciplinaires, d'installations sonores et lumineuses, de dispositifs robotiques, de cabarets audio, œuvres interactives, etc. En plus, bonification, cette année, il y a un volet spécial qui s'appelle les nuits numériques, les 17 et 18 février. Et là, ça va être des activités en extérieur et en intérieur de la coopérative Méduse, un peu toute la nuit. Donc, ça va être assez intéressant.
J'ai bien hâte d'avoir, puis en plus, on nous dit qu'on va nous voir, il va y avoir du vin chaud pour tout le monde, donc des activités, c'est ça, à l'intérieur, à l'extérieur, des projections, on va utiliser les fenêtres et l'architecture de Méduse. Moi, ça a vraiment piqué ma curiosité.
Et de manière générale, en fait, et Julie, tu as été à la conférence de presse d'ailleurs, en fait, une programmation qui est toujours, on le disait, variée en termes de pratique, en termes de style, en termes d'éléments qui vont être présentés.
Bien, variée et à l'avant-garde, en fait, à cette conférence de presse-là, justement, il y a Marielle Lehmann d'Avatar qui disait, il est allé des fois à des événements internationaux, puis il disait, ce qui se passe avec le mois multi à Québec, là, c'est quand même assez rare, puis à cause du mois multi, au Québec, on a vraiment des pratiques multidisciplinaires qui intègrent les technologies vraiment de qualité. On est à l'avant-garde de ça aussi.
Alors, en fait, la programmation intégrale sur moimulti.org et évidemment, on en reparlera ici à l'aérospatiale au fil des prochaines
semaines.
C'est un peu incontournable.
Oui, ça serait.
Merci de dire.
C'est ça que la manif d'art, là, passer à côté, ça ne fonctionne pas.
Et sinon, en ce qui concerne le Musée national des beaux-arts, il y a eu lancement un peu plus tôt cette année de la programmation 2012. Une programmation quand même largement consacrée à l'histoire, notamment première exposition mode et apparence dans l'art québécois qui va être présentée à partir du 9 février, qui va offrir des peintures d'Antoine Plamondon, d'Alfred Pellan, de Jean-Paul Lemieux, qui vont illustrer l'élégance des Québécois de la fin du 19e siècle, du 20e siècle aussi, le genre de vêtements que portaient les ouvriers dans la campagne, en ville, etc. Donc, il y aura en parallèle de l'exposition des créations de couturiers québécois, il y aura aussi cet été une exposition d'art contemporain consacrée au plein air à ciel ouvert, donc le nouveau plénarisme, qui va proposer des œuvres, des dessins, gravures, vidéos, peintures, sculptures, photographies, collages d'artistes canadiens, européens, latino-américains qui pratiquent la création en plein air. Donc ça risque d'être intéressant d'explorer dans le fond d'autres types de pratiques liées à l'art contemporain.
Ben oui, parce que surtout que celle-là, c'est souvent une pratique qu'on associe au paysage, aux impressionnistes. Donc de voir comment justement ce plénarisme-là procède à des mutations, des changements, s'actualise. Oui, c'est...
Une exposition si bien attendue de juin à septembre, c'est au Pays des Merveilles, des aventures surréalistes des femmes artistes du Mexique et des États-Unis. On parle ici de 179 œuvres réalisées entre 1930 et 1970 par 46 femmes artistes. On parle notamment de Frida Kahlo, entre autres. Il y aura aussi une autre exposition internationale qui va être présentée d'octobre à janvier. Il s'agit d'art et nature au Moyen-Âge, une collaboration avec le musée de Cluny en France. On parle de 150 œuvres de l'art médiéval d'Europe occidentale, des tapisseries, des céramiques, donc encore là, un regard qui risque d'être extrêmement stimulant.
Ben, celle-là, j'ai très, très hâte de la voir parce que je sais qu'il va y avoir des pages, des très riches du duc de Berry, c'est des enluminures qui sont très célèbres, en fait, dans l'histoire du Moyen-Âge. Il y aura ça ici, à Québec. Je trépigne presque d'impatience.
Et quelques petits clés en terminant, notamment les arts en Nouvelle-France, de août à avril, 125 œuvres réalisées de 1608 à 1760. Il y aura aussi une exposition d'art contemporain qui présente sera laïcité performative, une installation multimédia de l'artiste montréalais Stéphane Gillot. Et puisqu'on est sur le terrain du Musée national des beaux-arts, je mentionne au passage qu'il y aura prolongation des expositions Steak and Glamour, Mode et Célébrité, ainsi que Napoléon Bourassa. Donc, pour Steak and, ça sera prolongé jusqu'en février, 12 février, et pour Napoléon Bourassa jusqu'au 11 mars prochain. Et sinon, deux petites nouvelles. Une belle nouvelle pour les amateurs de Pierre Gauvreau. Il y aura une exposition qui sera présentée en son honneur et en sa mémoire au Musée de la Civilisation en 2013. En fait, le Musée de la Civilisation a reçu un don majeur de l'épouse de l'artiste. Et il y aura donc des peintures qui ont été faites dans les derniers jours de sa vie, des peintures qui n'ont jamais, des œuvres qui n'ont jamais été exposées. On parle d'un don de 104 pièces, 13 tableaux peints de la main de Pierre Gauvreau autour d'une carrière de 67 ans. Alors, ça sera intéressant de voir ce qui sera préparé. Et parallèlement, en France, il y a un petit débat, à savoir, en fait, le Louvre va envoyer des œuvres à Fukushima pour une exposition temporaire, une exposition itinérante, en fait, dans trois villes de ce secteur-là qui ont été touchées notamment par ce qui s'est passé en matière de nucléaire. Là, les gens qui suivent l'actualité, ils sont au courant. Et il y a quelques gens qui se questionnent à savoir est-ce que c'est vraiment l'occasion pour le Louvre de faire visiter ces œuvres, mais y a-t-il un risque pour les œuvres, notamment un article assez critique de la Tribune de l'Art à cet effet? Alors, vous pourrez retrouver les liens pour prendre la mesure de l'ampleur du débat sur l'aérospatiale.wordpress.com.
Oui, mon Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et on t'écoute à la vie en BD ce vendredi à 17h30.
Oui, on fait un petit coup d'œil du côté des arts visuels, notamment BDIS qui fait une exposition d'art au Cercle, une exposition de dessin abstrait. Rencontre avec Joël Sim vendredi.
Ben voilà, donc vendredi à 17h30, on s'en va en pause audio, on écoute une pièce, elle s'appelle Rouge, disons-le comme ça. Un extrait de la pièce CC0000, ça veut dire rouge en langage informatique. C'était tiré de l'album Couleur ASCII de NP. C'est une suggestion de Simon Roy et j'arrête pas de bégayer depuis que j'ai recommencé mon animation, mais c'est pas très grave parce que je m'apprête à céder la parole à Georgia Volpe qui présente Méandre à vue. Bonjour Georgia.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Ça va bien. Méandre, c'est le titre de l'exposition. Méandre de la mémoire, méandre du corps.
Oui, on peut interpréter comme ça. C'est un nom ouvert. Je l'ai choisi parce qu'il peut être autant, il peut évoquer autant le dedans que le dehors.
OK, donc c'est vraiment le méandre, on peut se perdre dans les méandres de la réflexion là-dessus aussi.
Oui, oui.
L'exposition, elle porte sur la mémoire, sur le corps.
Mais un peu la mémoire corporelle, je peux interpréter comme ça. Donc, c'est vraiment s'inspirer un peu, s'inspirer totalement de vieilles maisons que j'ai habitées. Donc, c'est une mémoire intime de ma relation avec ces espaces qui ont été vécus par d'autres personnes. Donc, en fait, on peut le lire comme une interprétation intime de ces espaces. C'est une maison, en fait, ces habitations-là, je me suis appropriée, elles étaient imprégnées de traces de mémoire de ces deux personnes qui n'étaient plus là.
Okay.
Donc là, j'ai transformé ces traces dans des globules, comme une espèce de... comme des cellules.
Oui, c'est ça, c'est des formes très organiques.
C'est ça, de mémoire un peu cellulaire. Non, on a vraiment... on porte ces mémoires de nos cellules, l'héritage génétique, on parle moins de ça, mais bon. Donc, c'est identitaire, sans doute, parce que c'est des images, des habitations où ils ont vécu deux personnes centenaires. Ils ont vécu dans ces maisons jusqu'à à peu près 100 ans.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est une vie de très, très longue durée. Là,
oui, donc tu trouves vraiment des traces d'un homme et d'une femme, des traces d'une identité, d'identité québécoise. Non? Et puis, que j'ai pu m'approprier en l'habitant ces maisons-là, avec mon regard, avec mon vécu. Donc, une autre anecdote que j'aime ça raconter, qui est une de ces maisons, je l'habite aujourd'hui, puis quand j'ai rentré la première fois, je sentais vraiment rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre.
Okay. Là,
ça sentait vraiment l'odeur de la personne qui avait vécu avant. Et ça a pris certain temps pour que je puisse ça puisse être moi qui habitais ça.
C'est notre odeur, notre ambiance.
C'est ça, notre manière de... Donc ça, c'est tout un peu l'inspiration de ce travail. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. J'aime ça, laisser une ouverture au regard des autres. Il y a aussi l'installation. En fait, c'est une installation photographique. Donc, on voit des images photos prises dans ces deux maisons que je suis
détails, souvent.
Oui,
tapisserie, coin de lit.
Est-ce que tu l'as vu?
Oui.
Mais c'est ça, c'est comme des trous. C'est dans le mur.
Ah, c'est ça, carrément, des trous dans le mur.
On voit des espaces intérieurs, des coins de maison et tout. Puis, donc, chaque image est vraiment portée. C'est un nouveau dessin sur la photo. C'est comme si je vais chercher dans l'image.
Oui, parce que là, tu vas te découper carrément ces photographies.
Je découpe ces images. C'est une réappropriation de l'espace photographique. Donc,
mais
il y a
ouais.
un questionnement. Mais il y a une approche aussi du questionnement. C'est quoi la photo? C'est ce qu'elle révèle quand on l'a devant nous. Des choses qu'on n'a pas vues en le prenant ou avant de le prendre.
Ouais.
C'est une révélation qui se présente comme une nouvelle, une surprise. Donc, ces surprises ont été, ces petits noyaux que j'appelle des globules, ont été trouvés ici et là, dans le méandre de ces maisons. Puis, au centre, il y a une forme très organique aussi. Moi, j'appelle un centre nerveux.
Ben oui, c'est ça. On dirait des ramifications de nerfs ou encore des ramifications de veines.
Des veines.
Comment tout est rattaché dans le corps.
Exactement. Oui. C'est une espèce de vaisseau sanguin. En fait, la pièce centrale est très performative parce qu'elle invite les autres à rentrer, y voir le dehors de dedans. Donc, il y a toujours ce rapport dans l'espace de rentrer, voir le dehors, de dehors et garder le dedans.
Mais ouais.
Puis, moi, j'ai voulu faire cette pièce centrale blanche, pas à cause de qu'on est l'hiver, et puis c'est tout blanc, mais c'est justement, j'ai essayé de travailler sur l'idée de blanc, le blanc, tu sais, le blanc de l'image, la non-image.
Oui, parce que c'est du papier photo, je crois.
C'est du papier photo, c'est la récupération de fin de rouleau, de papier photographique. Donc, les images, ils sont à devenir. C'est comme, je fais un clin d'œil aussi à devenir de l'image qui n'est pas encore là. Mais elle devient autre chose qu'on la met, qu'on le transforme, on lui donne une forme qui est symbolique, qui est en rapport avec le corps.
Ben oui, c'est ça qui est enveloppante aussi. Hein,
c'est en forme
de cylindre, on entre à l'intérieur, puis ben là, on a une toute autre vision de ce qu'on voit.
Une autre vision. Ce qui apparaît pas à première vue, peut-être c'est là qu'il faut prendre le temps de contempler l'espace, pas juste les œuvres séparément. C'est ça que je trouve des fois difficile. Les gens sont très immédiatistes quand ils rentrent, ils regardent, bon, ils sont attirés ou non. Mais
on ne prend pas le temps de regarder
l'ensemble. On ne prend pas le temps de voir des détails qui l'artiste, sûrement, il a dû travailler, comme les ombrages et tout. Ces ombres sont importantes aussi. La manière que la lumière est placée dans l'espace, c'est important aussi. Ça fait un nouveau dessin, ça intègre le centre, l'espace. La forme centrale invite les gens à un parcours aussi.
Ben oui, à faire le tour.
Pas juste le voir comme on voit une photo, plat. Mais elle invite à faire un parcours. Donc, on fait le tour du rond, on fait le tour du centre pour aller dans cet espace qui est une extension dans les murs. Et puis, on voit ça comme une espèce vraiment de centre qui nous invite à faire le tour, non, à créer un passage aussi, ouais, un parcours. Donc, c'est des choses que je réfléchis, que j'ai travaillé en résidence justement à Vue. Avant, en décembre, mois de décembre, c'était une résidence assez express. C'était vraiment vite, mais j'avais déjà un peu des données, j'avais déjà travaillé un peu. C'était pour moi un temps de ronde, mais c'est drôle, cette installation-là, elle va encore prendre d'autres formes, elle va encore se développer. C'est vraiment une expérience. Moi, j'ai voulu, je pense, exposer cette expérience de la création, de l'artiste avec la création, de l'artiste avec, tu sais, de tous ces processus qu'on vit pendant la création aussi, qui des fois, il porte à différents niveaux.
Ben oui, puis la pensée, ça amène aussi, c'est pas toujours une suite logique, là, ça, c'est des associations. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça, justement, les trous, en fait, dans les mots, avec les images, comment la pensée ne retient pas nécessairement une pièce dans son ensemble, mais fixe un moment le coin du lit, le bout de tapisserie en train de déchirer, par exemple. Donc, j'imagine que ça aussi, le rapport au corps le corps, l'esprit qui est présent dans la manière de présenter les choses aussi.
Exactement, parce que la mémoire, elle n'est pas linéaire. Non, elle est des fragments. Elle peut être aussi de l'oubli. T'sais. Donc, c'est vraiment de flash. On a de flash sur certains aspects. Et puis, elle est aussi imaginaire. Donc, elle n'est pas deux fois réelle. Elle est le fruit d'une imagination aussi. Donc, c'est un peu tout ça ensemble.
Puis, je veux dire, la pièce au centre, en fait, parce que je sais que tu travailles souvent les papiers ou encore les techniques traditionnelles. Est-ce que, parce que moi, ça m'a vraiment fait penser un peu à de la dentelle du travail. Je sais qu'il y a des femmes, je crois, au Mexique qui s'abonnent beaucoup à des découpages comme ça. Est-ce que c'est un lien que tu faisais?
C'est vraiment, moi, je pense que la photo, en principe, c'est un découpage. Donc, j'ai voulu utiliser le découpage comme principe aussi de artisanal dans l'exposition. Je travaille avec la récupération beaucoup, donc récupérer des fins de rouleau, c'est des fins de rouleau de papier, ça a été aussi un aspect. La répétition aussi, c'est quelque chose qui fait partie de mes œuvres, donc une espèce de compulsion à la répétition.
Mais ça amène quelque chose de très contemplatif aussi, là,
ouais,
en travaillant comme ça.
Mais sûrement, de méditatif, et puis ça... ça nous amène à un autre espace.
Tu disais que tu utilisais beaucoup de matériaux recyclés. Pourquoi les matériaux recyclés? Parce qu'ils portent une trace de cette mémoire-là, justement.
Exactement. C'est les rébuts, les traces de la société de consommation. Mais c'est des choses qui sont là et puis qu'on peut donner une autre vie en l'articulant autrement. Et puis, le mettant monumentalement, ces petites choses, ces petits gestes, ils gagnent aussi un autre aspect. Donc, le rendre monumental, ces petits gestes de la répétition, de la construction minutieuse, là, on amène ça dans une dimension de rapport au corps, de rapport à l'espace, de rapport au public.
Oui, puis
l'espace intime, l'espace public.
Ben ouais.
Encore là.
Puis en même temps, il y a quand même un rapport, moi je vois un rapport à l'histoire là-dedans, dans cette idée justement de travailler des matériaux, leur conférer une noblesse par le biais du travail manuel. Donc, on s'inscrit quand même dans une perspective plus large aussi.
Oui, c'est drôle parce que dans la résidence, justement, je dis, voyons, je ne suis pas en train de faire la photo, mais je suis en train de découper ce contenu le concept de la photo même, c'est l'idée de la photographie est très présente dans cette exposition, de relancer un autre regard sur le photographique, dans le sens de essayer de m'approprier, de donner une autre vie à ces gens de la photo classique et non la photo plus traditionnelle.
Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, la photo, c'est déjà un cadrage. Donc, le découpage, c'est cadré. De base, en prenant la photo, il y a un choix qui est fait de montrer une chose. Et là, c'est comme si tu faisais un autre tri pour défiger.
Donc là, on est comme rendu à une espèce de c'est un autre niveau de l'exposition aussi, le microcosme et le macrocosme.
Ben ouais.
Donc, on est dans le dedans du dedans. Dedans du cas, dedans du dedans, tu sais, on est toujours en jeu un peu de mise en abîme.
Ben ouais.
Donc ça, c'est très important pour moi. Donc, vous voyez l'exposition, un exemple, je me suis basée vraiment de photos des globules, en 3D, on voit ça maintenant, découverte et tout.
Ben ouais.
Comment les globules bougent dans notre corps, comment, si c'était l'espace.
Ouais, pour les rassembler aussi sur le
mur. Et puis ensuite, le rapport de ça avec les planètes, dans l'espace même, c'est comme chaque planète, c'est aussi un globule. Puis, donc, je me suis basée beaucoup des photographies, de radiographies des planètes. C'est qu'on trouve à l'Internet, curieusement, l'idée du vaisseau, l'image du vaisseau, mais aussi, c'est ça. Donc, ces trois choses, le microcosme et le macrocosme. Donc, comment on peut transformer les expériences de petits coins, de recoins, de minutieux, de la manualité, donc quelque chose de grand, spatial, non? Aérospatial.
C'est ça, on y est à l'aérospatial. Georgia Volpe, merci beaucoup.
Bienvenue.
Donc, l'exposition Méandre vient tout juste de commencer. C'est présenté à vue jusqu'au 12 février. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Catherine Boivin qui nous parlera de l'exposition de David Faithful qui est présentée à Engramme.
Le Cercle Evox revient en force avec l'événement Les Arts Studios. Lors de cette 6e série de concerts captés en direct sur Vox Québec, 12 groupes et artistes de la région défileront dans un véritable festival de musique émergente. Le 12 janvier dès 8h, soirée folk blues et country rock avec Denis Vildan et Urban Cowboy. Le 18, pop rock et électro avec Dance All Around et Pick a Feller and Electro Gang. Et le 19, grunge et rap avec Hayley Sin et Black Taboo. Ça se passe au Cercle, ça se voit sur Vox, au collab- collaboration avec DNP, Impact Campus, Montréal et CKRL 89.1, le-cercle.ca.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1.
This is Tic-Tac-Toe.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1.
Cultive tes goûts.
Try it out.
C'est KRL.
Présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418 529 3829.
Après
bienvenue en cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on vient tout juste d'être rejoint par Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Oui, allô Julie, ça va bien?
Ça va bien toi?
Très bien.
Bonne année.
Bonne année, c'est vrai.
C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Bonne année à tous, à vous, à la maison. Je vous souhaite plein d'heures de découvertes et de joie de vivre.
Deuxième ou première, excuse-moi.
C'est la première.
Voilà, OK, voilà. C'est ça que je me disais aussi, j'avais un petit doute.
Catherine, tu es allée faire un tour à Engram.
Voilà, c'est vendredi dernier, à l'occasion du vernissage d'une exposition d'un artiste écossais, donc qui était en visite chez nous. Je m'attendais bien à le rencontrer, mais il n'est pas venu, en fait. Il a envoyé.
C'est dommage.
Oui, quand même, parce que c'est, je vous dirais... C'est une expérience, courez-y. En fait, en ce moment, tout le complexe Méduse est à visiter, là. Et puis, mais avec Engram, c'est de la grande visite. D'abord, c'est un artiste quand même mature, là, qui doit avoir une cinquantaine d'années.
Oh, quand même.
Quand même. J'ai regardé ses études entre 79-83, donc ça place un peu. Quelqu'un qui a un profil, oui, d'artiste, mais aussi d'illustrateur et de printmaker, alors de graveur. Et il va travailler, dans le fond, l'installation, parce que c'est ça dont il s'agit, mais aussi ce qu'on veut apprécier, en fait, c'est plusieurs fragments de son travail, là, de différents projets.
Donc, on a parlé de trois, là, des différents. Là.
Oui, c'est ça, là. Et puis, c'est comme, disons, ça nous donne un aperçu de ce qu'il a fait de par le passé. Et donc, on est en Écosse, on a des paysages d'Écosse, parce que c'est quelqu'un qui va travailler le paysage, essentiellement, et c'est des paysages assez arides, là, de la côte rocheuse d'Écosse. Et ce qui nous aide à comprendre un peu aussi son travail, c'est l'idée du palindrome.
Oui, parce que l'exposition s'appelle Palindrome panoramique.
Voilà. Donc, tout de suite, on nous donne la clé, et c'est important de l'avoir, en fait, parce qu'il travaille cette idée que le paysage, il essaie de travailler comme des répétitions, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir de droite à gauche, et puis on pourrait visiter la même chose, tu sais, une espèce de vue panoramique, mais qui fait que comme si on prendrait un fragment de paysage qu'on pourrait répéter. C'est un peu l'idée du palindrome, qu'on le lise de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il nous donne, par une installation de chaises, en fait, tout au fond, là où il a fait des impressions sur des chaises de plage, vous savez, sont en tissu.
Avec juste un cadre de bois.
Oui, c'est ça. Donc, son paysage est imprimé. Et puis, là, il nous donne, en fait, des indications de lire, pas non seulement de gauche à droite, mais je dirais de haut en bas et d'est en ouest. Donc, il joue avec la topographie, la géographie du paysage, je dirais, qui sont vraiment plus proches des îles écossaises. Alors, ouais. Donc, on est dans un paysage un peu aride. Il en fait aussi ce que j'appellerais une tapisserie, mais le terme, c'est plus papier peint.
Hein? Ouais.
C'est des papiers peints. Et donc, d'où l'idée de la gravure, d'où l'idée d'engramme. C'est surtout tout son travail, en fait, de livres d'artistes, mais aussi de papier peint.
De papier peint, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le papier peint reprend comme toujours le même motif, normalement, qu'on revoit. Puis, il y a cette idée de la répétition aussi, justement, de l'estampe. Donc, de reprendre le même motif, mais dans ce cas-là, de le faire sur le même papier, puis ça lui donne vraiment un côté décoratif.
Tout à fait, tout à fait. Puis, l'idée du palindrome, mais on peut le prendre dans les motifs, parce qu'entre autres, il y a trois motifs qui m'ont marqué sur un des papiers peints. C'était des motifs qui se ressemblent. En fait, il y a un fleur de lys, donc pour nous, ça nous parle. Et c'est un fleur de lys noir sur un fond un peu papier jaunâtre, là. C'est ma mémoire, enfin, blanc et cru, là, mais un peu cassé.
Bon, lin blanc, là.
Oui, un peu, c'est vrai, ça a le côté un peu naturel. Donc, le motif, un gros fleur de lys noir. Il y avait aussi un genre de grue avec les ailes déployées, les pattes. Et donc, dans le fond, on peut reprendre un peu cette idée du fleur de lys. Et il y avait une espèce de jet aussi comme motif. Et rapidement, tous ces motifs-là se répondent, mais si on les coupe en deux, ils sont exactement pareils d'un côté comme de l'autre. Cette idée de la symétrie, là, dans le motif aussi.
Exactement. Puis il y a les correspondances formelles, justement, entre les motifs. Donc, le fleur de lys avec les pétales qui se déploient, puis les ailes de l'avion, tout ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Et puis, je ne sais pas si ça te fait cet effet-là, mais quand on rentre chez Engram, déjà, on sait qu'on s'en va visiter quelqu'un de la Grande-Bretagne, en fait, des îles britanniques. Donc, nécessairement, on pense aussi un peu arts and craft. Ouais. Donc, on pense à la tapisserie. On est face à un papier peint. Donc, on pense à William Morris, mais on pense à toute cette tradition du 19e siècle aussi. Il y a des motifs à certains, enfin, lui, dans des espaces plus grands, il a mis vraiment des murs entiers de ce papier peint avec même des bois de serre. Là, ça donne un effet log cabin d'Écosse.
Ben oui.
Et donc, ça nous ramène un côté peut-être plus traditionnel, là, justement, d'Angleterre. Grande-Bretagne-Écosse, parce que
clairement ancré justement dans la tradition et conscient quand même de l'histoire, d'où il vient, des pratiques et tout ça. Là.
Oui, donc il y a un côté justement, comme le Arts and Crafts était très, on valorisait en fait aussi beaucoup les métiers d'art, donc il y a cette idée aussi par le livre d'art, par le travail de gravure et par l'installation artistique, de faire un mélange, je dirais, entre, ben, justement, pas de hiérarchie entre les formes d'art et de continuer un peu dans cette tradition-là. Ça, c'est tout à fait assumé, je pense, de sa part. Je dirais donc qu'il y a un travail historique à ce niveau-là et il y a un travail un peu nationaliste puisque l'Écosse est vraiment ancrée par le paysage que l'on aperçoit et par aussi sa collaboration avec des auteurs écossais et des poètes écossais pour ses livres d'art dont il fait. Alors, il est très collaboratif. Hein, c'est aussi un commissaire d'exposition et il est très unificateur. Hein, il fait travailler dans le cadre de ses projets-là beaucoup des collectifs d'artistes et des collaborations. Son rapport à l'histoire, je voudrais ajouter une petite chose qui m'a vraiment fascinée, c'est que, aussi dans les techniques anciennes, c'est qu'il va travailler des techniques contemporaines de gravure, mais il explore aussi des techniques anciennes. Et pour ses livres d'art, il est allé rechercher... C'est la noix de Galles. Noix de Galles.
Okay.
Pas pays de Galles, mais noix de Galles, comme le pays de Galles, dans le fond, qui vient du chêne. Et dans le fond, c'est une espèce de boule qu'on retrouve dans les arbres. C'est provoqué par un mécanisme de défense de l'arbre. C'est un insecte là, qui va pondre un œuf dans ça, puis ça crée une espèce de
galles. D'excroissance.
Comme les petites bosses qu'on voit sur des feuilles, mais imaginez des belles grosses. Et lui, il en a rapporté, en fait. Et ce qu'on fait avec ça depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge, c'est qu'on fait de l'encre noire.
Ah ouais?
Et on dit que même le magnifique manuscrit enluminé du livre de Kells, le premier, un des plus anciens manuscrits bibliques, là, celtique, donc, est faite avec cette encre-là. Et, enfin, ça a l'air que c'est une recette assez commune que les gens faisaient, parce que des tanins, et ça, c'est des tanins, en plus, qui ont la propriété de vraiment imbiber, de vraiment fusionner avec le papier, et donc,
ou
le velin, ou la... c'est ça. Donc, il y a cette préoccupation-là d'aller chercher les vieilles techniques, des vieux savoirs, mais en même temps, il développe, il est très contemporain, puis il développe aussi des techniques nouvelles. Alors, il y a... un beau jeu, là.
Qu'as-tu pensé de l'installation qui est au centre avec Bear et Bull, Marquette, je ne me rappelle pas trop exactement le titre?
Je suis contente que tu m'en parles et que j'ai un petit peu le temps parce que ça amène sa préoccupation actuelle, c'est-à-dire dans le contemporain. On n'est pas nostalgique là, d'un passé, mais c'est qu'il y a un dialogue, je dirais, davantage.
Et une conscience.
Une conscience. Et puis, il semblerait, en fait, c'est une... En fait, il faut dire, c'est deux images, un d'un ours, comme, je dirais, c'est assez sommaire, hein, c'est plus le tracé, c'est une illustration d'ours sur une trame de points, un peu à la Liechtenstein, mais pas du tout dans les couleurs de Liechtenstein.
Très graphique aussi.
Très graphique, tout à fait, c'est ça que j'essaie de mentionner. Donc, l'ours et aussi le bull, alors le bœuf. Et ça, c'est un terme en économie. On parle de... un bull market, quand ça va bien, on est optimiste, on a envie d'investir, que le marché pète vers le haut. On n'est pas du tout là-dedans en ce moment. Là, en ce moment, on est plus dans un bear market.
Okay, c'est comme
on est pessimiste, ça va pas, ça va à la baisse. Alors,
C'est comme les deux tendances.
Et il a fait ça avec des gravures à base de monnaie écossaise, de monnaie papier, c'est de la monnaie... désuète, la monnaie qu'on enlève du marbre. Et il le déchiquette et il en fait,
il l'utilise pour ses poussières.
Oui, exactement, puis il en fait des impressions. Et ce travail-là a été financé par la Scotland Bank.
Ah ouais? Oui.
Alors, il a travaillé pour ça, puis une autre institution financière qui célébrait une année. Alors, il a fait un livre historique, un livre d'art pour cette institution-là. Donc, c'est assez intéressant. C'est un discours sur le marché, mais en même temps, complice avec des acteurs des institutions financières de l'Écosse. Il est très impliqué dans son milieu. Et puis, et donc, on peut voir son bear et son bull comme ça. C'est alors la Banque de Scotland, en fait, c'est un peu commandité.
Mais surtout, si on regarde vraiment plus en détail l'ours, là, c'est là qu'on peut vraiment observer. Parce que moi, je regardais, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Puis éventuellement, oups, on reconnaît les petites lignes ondulées des billets. Oups, il y a un 20 à quelque part. Mm-hmm. Des petites indications comme ça, mais c'est tellement réduit que c'est pas. Non, ça s'impose pas, là, d'un premier regard à un mètre, on s'en rendra pas compte nécessairement. Non, c'est ça qui est plaisant aussi, c'est pas de tape à l'œil.
Non, puis c'est une exposition, le fait qu'elle n'a pas tout le déploiement qu'elle pourrait avoir dans une grande salle, mais qu'il y a. Il faut prendre le temps de regarder les livres. On peut manipuler les livres. Ça, c'est très. Lui, il ne veut pas justement créer une distance, mais au contraire, il veut qu'on les manipule. On met des petits gants et puis on les garde tout beaux. Son graphisme, son illustration m'ont beaucoup, beaucoup plu. Si vous êtes curieux d'aller voir, entre autres, son site Internet, c'est davidfaithful.co.uk, là, UK. Son site est magnifique et donne un aperçu. On peut vraiment voir aussi ses œuvres. Et je voudrais que c'est de la grande visite. Il y a quand même de ses œuvres qui sont conservées à la Tate Modern en Angleterre et aussi il est consacré là, chez lui par le Musée national d'art moderne d'Écosse et dans toutes sortes de galeries. Son CV est assez impressionnant. Donc, on aurait bien aimé ça le rencontrer. Il a l'air sympathique et tout. Peut-être une prochaine fois puisqu'il semblerait qu'Angram a des belles collaborations là, avec les gens en Écosse.
À ben oui, c'est la deuxième là. En trois mois là, avec des gens d'Écosse.
Voilà, donc on a espoir que ces collaborations-là en fait, nous amènent encore des découvertes extraordinaires.
Ben voilà, c'est un dossier à suivre.
Voilà.
Catherine Boivin, merci beaucoup. Donc, l'exposition Palindrome panoramique de David Faithful vient tout juste de commencer. Elle se termine le 12 février. Elle est présentée à Angram. On s'en va en pause audio. On écoute une série de F. Je crois que ça veut dire blanc. Je vais retrouver auprès de Simon Blanc sur les ondes de Super-Rex. Toujours l'aérospatiale. La pièce s'appelait une série de F ou F. Ça veut dire, je crois que ça veut dire blanc. Vous aurez la précision sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. C'est une suggestion de Simon Roy, MP, avec son album Couleur ASCII. Et vous savez, à Québec, dans le milieu des arts visuels, s'il y a une chose qui incarne peut-être la stabilité depuis 30 ans, c'est bien la galerie Lacerte, puisqu'elle fête son 30e anniversaire cette année. Pour nous en parler, Louis Lacerte, directeur de la galerie, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Vous êtes dans les préparatifs, là, parce que ce vendredi, il y a une exposition qui commémore ce 30e anniversaire.
On devrait se mettre sur l'accrochage demain matin, là, tranquillement, là. Et puis on devrait être bon pour...
accueillir les gens vendredi pour le vernissage, vendredi soir.
Vendredi soir, donc ça commence à 17h. 30 ans pour une galerie comme ça, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est une durée vraiment...
C'est assez long, c'est assez exceptionnel pour une galerie en art contemporain au Québec. Il y a très peu de galeries qui ont notre âge. Là.
Pourquoi? Parce que des fois, c'est des mauvais choix?
Non, mais c'est un métier qui est très difficile. Et puis, c'est des marchés qui sont incertains. Et puis... ça prenait beaucoup de passion puis de persévérance pour traverser les années 90.
Ah ouais?
Donc, ça, c'était une période. La période des années 90, ça a été une période excessivement dure sur les galeries. Donc, plusieurs des les galeries d'art contemporain qui étaient là au début des années 90 ont lâché à un moment donné.
Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y avait comme une récession.
C'est ça, c'est des business très personnels. Tu sais, comme ben, ses propriétaires. Donc, donc les galeries il y a rarement de la relève et puis bon les galeries soient fermes ou bon à un moment donné là, ça peut être épuisant pour certains là. Il y a d'autres, la crise économique des années 90 a eu raison de plusieurs galeries là.
Okay.
Et, donc faut être à la fois là, débrouillard là, puis avoir le flambeau élevé parce que
oui, c'est avoir pas, une motivation
pas, oui c'est pas c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un comme métier stable. Là. C'est vraiment... C'est toujours... on précaire. Commence toujours... assez précaire. Nous, on a été... pas chanceux, mais on a fait certains gestes financiers qui ont été intéressants, là, puis qui fait qu'aujourd'hui, la galerie a une base solide. Maintenant, partir à froid, avec pas d'actifs, rien. Puis bon, aujourd'hui... je pense qu'on est dans un climat aussi assez incertain, là. Ça ne serait pas évident, là. C'est une combinaison, la galerie, c'est une combinaison de différentes choses. Les transactions qu'on voit, ce qui se passe sur les murs, c'est un peu
la
pointe de l'iceberg. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière, les transactions de marché secondaire qui, des fois, tu vas voir un tableau, ça va te permettre de faire deux expos, trois expos, puis pas de casser la tête si tu vends ou tu vends pas. Là.
Ah ouais.
Alors, il y a un côté de dire, bon, ben, toujours l'équation, c'est de dire, je vais rester chez nous, je vais vendre des tableaux de marché secondaire, puis je vais m'en couler douce, mais bon...
quand vous parlez de marché secondaire, faut juste préciser, parce que je pense
c'est la vente de tableaux. Okay. Puis aussi, dans le fait que nous, on est une vieille galerie, bon, on a travaillé avec beaucoup d'artistes qui étaient nos artistes, des artistes duquel on se procurait des œuvres des ateliers. Donc, dans le premier marché.
Aujourd'hui,
ils sont devenus des artistes importants du marché secondaire. Là. Que ce soit okay. Jean-Paul Lemieux, Jean McEwen, Marcel Ferron,
Serge
Lemoine,
okay.
Entre autres, là, plusieurs des automatistes avec qui on a travaillé aussi, que ce soit Riopel, Gauvreau, tous ces gens-là.
Ouais, ouais.
Donc, ces gens-là, après ça, bon, on a retravaillé leur marché secondaire. Donc,
okay.
On a beaucoup travaillé, puis on a été un peu... je dirais, au début des années 2000, on a vraiment poussé sur ce volet-là, principalement à Fort de Toronto. Là. Donc, et puis, tout à coup, là, ça a suivi. Le marché s'est mis à suivre. Il y a eu des enchères formidables. Là. Puis bon, là, l'effet d'entraînement a été extraordinaire. Puis bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver des pièces. Là. Donc, c'est un peu à recommencer aussi.
Mais
c'est
ouais.
De trouver les œuvres aujourd'hui. T'sais, autant que ça pouvait être facile... Dans la période creuse des années 90, là, tu peux acheter Marcel Ferron pour vraiment une poignée de change, là, puis des Rita Le Temple, des choses
ben
de
ouais.
Même. Les choses étaient vraiment pas chères. Là, le marché a explosé.
Mais là aussi, bon, vous représentez quand même des grands noms de l'histoire de l'art québécois, mais vous avez aussi bon, quand même une écurie d'artistes assez variée.
Ouais,
vous en avez
ouais.
Combien, en fait, des artistes en ce moment qui vont
représenter? Je dirais 25 à 30 artistes. C'est pas que je compte pas ça, vraiment.
Non,
mais
bon,
c'est je dirais ça 25-30. C'est quelque chose qui bouge un peu aussi. Là. C'est bon. Donc, il y a des artistes avec qui on est vraiment très, très impliqués. D'autres, c'est plus ponctuel.
Différent,
ouais.
Puis qu'est-ce qui guide le choix? Parce que tu sais, quand même, quand on décide de représenter comme ça un artiste, j'imagine qu'il y a une part, oui, de marketing, mais j'imagine qu'il y a une part d'instinct aussi dans le choix. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un artiste qu'on représente?
Ben, c'est sûr que, bon, on est des commerçants, puis il faut qu'on aille dire, bon, oui, moi, je vais être capable de vendre ça. Mais qu'est-ce qui va me permettre de vendre ça? C'est pas de dire, bon, ben, c'est vendable. Il faut dire, d'abord, j'aime ça, puis après ça, je vais être capable de le vendre.
Ben ouais.
Puis, il y a des choses que je peux aimer, je peux exposer aussi, ça arrive. Puis je sais que c'est mauditement difficile à vendre. Puis que, bon, même si on fait un succès, si tu peux faire quelques ventes, tout ça, mais tu sais que foncièrement, au début de l'exposition, tu vas perdre de l'argent. Là.
Ouais,
ouais. Ça, c'est, tu le sais, ça. Donc, comme galeriste, il faut garder un équilibre entre les shows qui sont peuvent être rentables, les shows moins rentables, puis le marché secondaire qui est comme la clé magique. Là, qui
comme le de jongleur, là, finalement.
Oui, puis c'est toujours c'est un exercice qui n'est pas évident, puis les marchés bougent, puis bon, il y a toujours il faut être un joueur. Hein. Moi, j'étais un joueur, là. Puis ma mère, c'était une joueuse. On était des gens qui étaient prêts à prendre... qui était un certain...
Un côté gambler, finalement.
Côté gambler, oui. Il faut que tu sois gambler. Et puis moi, en tout cas, je vieillis. Là, j'ai 50 ans là, cette année. Là, je vais avoir 50 ans. Là. Donc, tu... À un moment donné, tu dis, ben là, il reste moins long, mais dans les années difficiles, tout ça, ben, je me dis... Pour moi, c'était bon, même si... Si je me casse la gueule, je vais avoir du temps pour me reprendre.
T'sais. OK, ouais, c'est ça.
OK, je n'ai jamais eu douté
de
gagner ma vie. T'sais, j'ai une formation de comptable, de comptable agréé. Là, j'ai laissé tomber ça pour devenir marchand d'or là, dans un contexte assez spécial là, parce que je pensais plus être un collectionneur qu'un marchand d'art au départ. Là. C'est la vie qui a fait que je suis devenu marchand de tableaux. Là,
c'est une histoire de famille aussi.
En concours de circonstances. Ouais. Mais c'était pas... moi, je pensais pas faire ça pour ma vie. Moi, j'étais plus... Mais j'ai toujours eu un âme d'entrepreneur. Puis j'ai toujours été un âme aussi de collectionneur. Donc,
okay.
Puis bon, la chose plaisante dans notre métier, c'est quand tu peux collectionner en même temps que faire ton chose. Puis, tu sais, c'est toujours, ça fait sourire les gens, mais moi, je préfère acheter que vendre. Tu sais, c'est toujours... quand tu achètes une œuvre importante, bien, t'es vraiment... Il y a une fierté qui vient avec ça, puis tu dis, hey, là, j'ai un trésor.
Mais oui, parce qu'il y a la convoitise, il y a toute la tente aussi. Puis...
Cette année, à Foire de Toronto, il y avait un petit bordure sur le stand d'un de mes voisins. Puis j'ai regardé la pièce, puis c'est un très beau bordura, avec une gouache de 42, une exposition historique de l'époque. Okay. Puis bon, le prix était super raisonnable. Là, c'est que j'ai acheté la pièce, puis j'ai revendu sur la foire. Mais quand je suis parti avec le lèvre dans mes mains, là, ma foire était mon highlight. Ça reste le highlight de la foire d'avoir avancé ça, parce que c'est des pièces exceptionnelles. Là,
puis là, c'est le 30e. Cette année, vous organisez à partir de vendredi une exposition. Vous dites que on n'est pas dans les gros événements. On sait
non, bien, d'abord, ça fait partie d'un cycle de trois expositions. Il y a déjà eu deux expos. Il y a eu l'exposition à l'espace de la Maison de la Culture, Parc Extension Villeray, qui nous ont approché pour qu'on fasse une expo. Puis bon, quand ils ont su que c'était le 30e, bien, ils ont raccroché ça au 30e anniversaire. Puis en même temps, ben, à Galerie à Montréal, on avait prévu faire une exposition de groupe, donc on a dit on va le faire autour du 30e aussi. Puis finalement, à Montréal, on avait quand même à peu près 7 à 8 000 pieds carrés d'espace pour accrocher. On a, à Villeray, moi, je me suis fait plaisir, j'ai beaucoup de grands formats dans notre fond de galerie, des pièces que je ne peux jamais présenter que là, j'ai accroché pour...
pour se gâter, pour
se gâter. Et donc, à Villeray, c'était une exposition qui était des artistes plus seniors de la galerie.
Ouais.
Et tandis qu'à la galerie, notre nouvelle galerie à Montréal, là, on présentait les œuvres des artistes qui se sont joints à nous dans les 10-12 dernières années.
Okay.
Donc, c'était plus... des artistes plus figuratifs que l'exposition.
C'est parce que de penser aussi.
Ouais. Et puis, ça a une représentation très, très forte des artistes de Québec. Là. Donc, ce que je me suis
on va montrer
amusé,
Québec à Montréal.
Amusé à, quand j'ai fait faire la tournée la semaine dernière, là, c'était artiste après artiste, à peu près des, il y avait au moins 7-8 artistes de suite. C'était des gens de Québec, alors on a fait notre job de diffusion.
Puis à Québec, comme ça qu'on peut dire.
De Jean-Paul Lemieux qui est avec la galerie dès le départ, des gens comme Antoine Dumas, Benoît East, là, qui sont comme des artistes du tout début. Évidemment, Ferron, McEwen, Lauréat Marois, des plus jeunes comme Martin Bureau, en passant par Simonin, Lemoine. Okay.
On a quand même un équilibre, les anciens.
Ouais, bureaux, ouais, ouais, là. Bon, évidemment, j'ai pas la latitude que j'avais à Montréal, là. C'est pour ça que c'est pas une exposition à grand déploiement. Moi, j'aimerais avoir j'avais une salle de 10-15 000 pieds, là. Je pourrais faire quelque chose de signifiant, là. Là, donc, on fait une chose, on souligne les 30 ans de la galerie, mais ça se veut pas, là, l'exposition
grand déploiement,
on parle avec catalogue, etc., là. Je veux juste se dire, bon, ben, on a 30 ans, là.
Il faut le souligner,
on continue.
Ben, Louis Lasserte, directeur de la galerie Lasserte, merci beaucoup.
Ben, bienvenue.
Si vous êtes intéressé, ben, le vernissage, c'est vendredi à compter de 17h à la galerie Lasserte. Nous, l'émission tire déjà à sa fin. Donc, avant de terminer, juste peut-être vous présenter quelques événements comme ça. Jeudi prochain à 17h, il y a le vernissage de bancs d'essai à la galerie des arts visuels de l'Université Laval. Un peu plus tard, en soirée, à compter de 19h30, jeudi, à l'espace Hyperion, qui est situé au 190 Saint-Joseph-Est, une soirée qui est présentée par Folie Culture. C'est beaucoup de bruit pour voir, donc avec une performance sonore d'Éric Dorion, diffusion de pièces inédites de Blair, Nicolas Toussaint, Michel Vigée et Benoît Wu, projection de la minute vidéo Folie Culture 2011, donc jeudi à 19h30. Vendredi également, après le vernissage de l'exposition Lasserte à 30 ans, vous pouvez vous rendre à la patinoire de la Pointe aux Lièvres pour assister au lancement de Klondike, décor sonore pour patinoire. Puis, samedi à 19h15 au Musée national des Beaux-Arts du Québec, il y a un concert d'horreur de type 27. Ça s'appelle Horreur boréale. C'est inspiré de la collection d'art inuit du Musée des Beaux-Arts du Québec. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle encore que si vous voulez réécouter l'émission, vous avez manqué des petits bouts, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde et ce nouveau thème qu'on a inauguré aujourd'hui. Et je vous laisse avec Gilles Chaumet, les Fautes d'Amérique. Bonne soirée à tous.